following is a previously broadcast program.
There is this thing. Do you realize
what is there is this thing?
Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Bonjour et bienvenue sur En profondeur sur le 90.3 FM CKUT.ca. Aujourd'hui, nous concluons l'année et débutons la prochaine, même si, bon, officiellement dans le calendrier, le 1er janvier est la première journée de l'année, dans notre calendrier grégorien, mais bon, alors ces dates qui sont très symboliques peuvent nous permettre des fois des réflexions plus profondes sur des bilans d'année, des perspectives pour les futurs. Aujourd'hui, nous allons penser le passé, nous allons passer le présent, nous allons passer le futur. Nous allons penser l'ensemble écologie décoloniale, décolonisation écologiste, du lien intrinsèque qu'il y a entre colonisation et destruction environnementale et entre la lutte pour l'écologie et la lutte décoloniale. À travers la reprise d'une entrevue réalisée par les camarades d'Afrotopique avec Malcolm Ferdinand, qui a publié, il y a quelques temps déjà, un livre vraiment profond où il pense une écologie décoloniale, une écologie du monde. Le livre s'intitule « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Je vous laisse avec Afrotopique. Vous pouvez retrouver Afrotopique sur le SoundCloud de Afrotopique. Afrotopique étant A majuscule Frotopiques. Donc, Malcolm Ferdinand, pensez une écologie décoloniale, une écologie du monde.
Le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors, c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal, parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but.
Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Malcolm Ferdinand, philosophe et auteur d'un essai qui vient de paraître au Seuil, intitulé « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Malcolm Ferdinand propose une conception de l'écologie radicalement en rupture avec son acception dominante, une écologie décoloniale, une écologie du monde. Par-delà environnementalisme et colonialité, il développe un récit qui nous permet de penser la modernité depuis la perspective des mondes caribéens, un récit qui n'occulte pas l'existence des navires négriers du passé et du présent, des plantations d'ici et d'ailleurs, ni le sort de ceux qui sont dans les cales de cette modernité. Il nous propose un récit qui saisit le tout monde contemporain dans sa complexité, et qui permet de théoriser et de problématiser les enjeux du présent autrement. Ce récit propose une autre compréhension et une autre généalogie de la crise écologique. D'autres références, d'autres figures sont convoquées, et nous permet de comprendre que toutes les destructions sont construites, qu'elles s'inscrivent dans une histoire politique, sociale, économique, culturelle, ici celle de notre modernité occidentale et du monde qu'elle a configuré autour de ce qu'il appelle un habité colonial de la Terre. L'ambition de l'écologie décoloniale, ce n'est pas seulement de changer de récit, ni de protéger l'environnement, ni encore de reconnaître les luttes antiracistes ou anti-esclavagistes, mais bien plutôt d'instaurer un monde. De réparer la double fracture qui sépare les luttes décoloniales des luttes environnementales pour retrouver la force nécessaire et enfin briser la cale du monde. Cette écologie décoloniale propose de quitter la plantation et son air. Elle nous permet de voir ce qu'il reste à faire et à défaire. Elle nous rappelle également que l'écoutille qui sépare le pont de la cale se brise des deux côtés, du côté des libres et des captifs. Et que l'on a tous du travail, car la modernité nous a inculqué à tous des formes de l'habité coloniale. C'est un livre passionnant et important qui réussit à tenir ensemble sans mettre de côté l'exigence de justice. On vous invite vraiment à le lire parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout dans cet épisode et que c'est un essai qui a véritablement le pouvoir de transformer nos imaginaires et que l'écologie, c'est aussi une question d'imaginaire. Bonne écoute.
Malcolm Ferdinand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en environnement et docteur en philosophie politique. Actuellement, vous êtes chercheur au CNRS et vous venez de publier un ouvrage intitulé « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen », publié au Seuil dans la collection Anthropocène. Alors cet ouvrage reprend en partie vos travaux de thèse, dans lesquels vous articulez les enjeux philosophiques et politiques des conflits écologiques dans les mondes caribéens, que vous connaissez bien car vous êtes vous-même originaire de la Martinique. Alors, dans ce livre, « Une écologie décoloniale », vous proposez une toute autre conception de l'écologie, vous changez de récit, vous proposez au lecteur d'embarquer dans une traversée de l'histoire de la modernité à partir de différents navires, vous allez nous raconter ça, et donc vous nous proposez d'autres concepts, d'autres généalogies, d'autres référentiels et une autre genèse aussi de ce que l'on appelle la crise écologique. Vous nous parlez d'une modernité qui commence par une conquête violente, qui se caractérise par une manière d'habiter la Terre, une manière d'habiter le monde, une manière d'entrer en relation avec l'autre, qu'il soit humain ou non humain. Et votre travail nous permet de voir à quel point l'écologie dominante est coloniale. Alors, Malcolm Ferdinand, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une écologie décoloniale et pourquoi ça vous paraît nécessaire ?
Oui, alors je vais commencer par raconter un peu... Pourquoi il m'est apparu important, finalement, d'écrire ce livre et de penser cette autre écologie, ce que j'appelle une écologie décoloniale, en énumérant un peu plusieurs points de départ. Le premier, qui est au fond le premier mot de mon livre, c'est celui de la colère. Colère face, bien sûr, à la manière dont on détruit les écosystèmes de la Terre. Nous sommes dans la sixième extinction d'espèces de masse. Colère face à ces injustices que l'on voit, injustices et nord-sud, mais aussi face à ce qui se passe aux portes de l'Europe, en ce moment même, ces personnes qui se noient, qu'on accueille à demi-mot ou qu'on refuse simplement d'accueillir. Colère face aux inégalités faites aux femmes. Colère face au racisme. Enfin, ça a été un des points de départ. L'autre point de départ, et ce qui m'a frappé dans ma formation universitaire, à la fois en tant qu'ingénieur, à la fois en tant que philosophe, c'est finalement ce que j'ai appelé dans le livre cette double fracture. C'est-à-dire vraiment ce mur qui sépare deux espaces militants critiques de la modernité. Un espace qu'on peut désigner comme l'espace écologiste, avec des associations environnementales, des associations pour la cause animale, des conférences pluriannuelles, des partis politiques verts, etc. Et un espace antiraciste, décolonial, afroféministe, qui eux aussi vont critiquer finalement cet héritage colonial de la modernité. Donc on a deux mouvements qui critiquent la modernité, mais qui pourtant, dans les universités comme dans les rues, ne se rencontrent pas et surtout ne se parlent pas. Alors bien sûr, il va y avoir des sympathies où les militants se rencontrent, il y a quand même une très bonne entente entre militants, mais parfois cela donne surtout lieu à ce que j'appelle des sympathies sans lien. C'est-à-dire qu'on est pour le combat de l'autre, pour la lutte que l'autre mène, mais on n'arrive pas à reconnaître les liens qui tissent la lutte que moi je fais ici et la lutte que toi tu fais là-bas. Ce qui fait qu'on a l'impression de vivre dans deux mondes séparés, en fait. Mmh. Et la crise écologique remet en scène cette même double fracture. Dans la façon de penser la crise écologique communément, elle apparaît totalement déconnectée de l'histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage. Parfois des questions d'inégalité sociale, parfois des questions de racisme, parfois des questions de misogynie, qui fait que il y a un discours bien pensant, un peu simpliste, même si ça permet parfois de rassembler plein de personnes parce que ce sont des slogans simples, qui va associer la crise écologique uniquement à quelque chose qui arrive à ce qu'on va appeler nature, à des écosystèmes, à de la biodiversité, et mettant de côté finalement cette construction historique qui a été la modernité, qui fait qu'aujourd'hui on arrive à cette situation destructrice du monde. Au niveau personnel, cela se manifeste pour moi dans mon parcours par le fait que quand je vais dans des conférences qui traitent de l'écologie, j'assiste à des cours en sociologie de l'environnement, en philosophie de l'environnement, en sciences politiques de l'environnement, quand je vais à des conférences, quand je vais rencontrer des amis écologistes, quand je participe à certaines manifestations, en France, mais aussi parfois dans d'autres pays, on se rend compte à quel point il y a une absence criante des personnes noires et d'autres personnes racisées. Et c'est particulièrement frappant parce que, en l'occurrence en France, nous sommes dans un pays avec plusieurs cultures, avec plusieurs groupes, avec plusieurs immigrations coloniales. Et je ne comprends pas comment on a réussi à créer, dans les partis politiques comme dans les associations, ces espaces où il y a une si faible présence des racisés. Donc c'est quelque chose qui m'a interrogé. Et bien sûr, cela est remarqué de part et d'autre, hein, notamment par les militants écolos. Cependant, cela reste remarqué surtout en termes de quelque chose de l'ordre d'une politique de la diversité. Tiens, ça serait bien qu'il y ait quelques Noirs qui soient dans les rangs, qui soient sur l'affiche quand on va aux élections, etc. etc. Or, je pense qu'il y a là un problème, et que s'il y a une absence, elle n'est pas du fait... Alors, il y a aussi parfois l'idée que, finalement, les Noirs, les racisés se préoccupent assez peu de ces questions-là, parce que, enfin, pourvu que ça a raison, soit ils s'en soucient pas, ce sont des thèses racistes, hein, comme Brigitte Bardot, par exemple, ou alors ils sont trop occupés à faire autre chose sur leur propre lutte pour pouvoir s'intéresser à quelque chose de l'ordre de l'environnement. Et du coup, je pense que s'il y a une absence, elle est d'abord le résultat d'un problème dans la manière de penser l'écologie, dans la manière de conceptualiser ce qui va être compris comme relevant de la crise écologique, comme relevant de la pensée écologiste. Tel a été mon point de départ. Il y a un autre versant à ce point de départ, c'est que, en réaction finalement à ce milieu majoritairement blanc et masculin qui a été créé dans ce milieu environnementaliste, on va trouver un ensemble de méfiances légitimes au sein des mouvements antiracistes et des coloniaux, qui vont se dire « Mais finalement, si mes intérêts ne sont pas représentés dans ces milieux-là, qu'est-ce que je vais aller faire dans ces milieux écologistes ?» Et puis finalement, parfois, et il y a une histoire de cela aussi, on pourra y revenir, parfois même, ces milieux ont eu des attitudes racistes, voire esclavagistes, envers nous ou les ancêtres. Donc, mon but dans ce livre est de surmonter cette double fracture, de réussir à bâtir des ponts entre ceux qui se préoccupent de la fracture environnementale de la modernité et ceux qui se préoccupent de la fracture coloniale de la modernité. Je pense qu'il y a là des éléments à tisser, et c'est le but de mon livre. Pour le faire, il faut par contre tisser un autre récit de ce qu'on a appelé la crise écologique, un autre récit de ce qu'on pense comme étant la modernité, mais pareil, un autre récit de ce qu'on pense comme étant l'histoire de la colonisation et l'histoire de l'esclavage. Faisant des va-et-vient de part et d'autre. Donc je commence par ce premier moment qui a été l'un des actes phares de la globalisation, la conquête des Amériques par les Européens, mais notamment 1492 avec Christophe Colomb qui arrive aux Amériques. Et l'idée étant de surmonter cette double fracture en montrant à la fois comment la colonisation a été non seulement un processus d'asservissement d'humains par d'autres humains, en l'occurrence les peuples européens qui ont asservi les peuples autochtones des Amériques. S'en est suivi un génocide, bien sûr. Mais que ça a été aussi un processus de transformation, de destruction écologique extrêmement violent. Et ce que je propose, c'est de penser ces deux dimensions en même temps. Et plutôt que de faire une énumération de différents aspects. Bon, il y a la colonisation, il y a la domination politique, il y a les impacts environnementaux. Non, de voir comment cela participe d'un même processus. Et ce processus, je l'ai appelé celui de l'habité colonial. C'est-à-dire que la colonisation des Amériques, la colonisation des îles caribéennes, a été aussi une imposition d'une certaine façon de se penser sur Terre, d'habiter la Terre, de se penser dans le monde, de se rapporter à l'autre, de se rapporter à l'autre humain et non humain.
Et ça a produit des effets, ou en tout cas ça a construit des structures économiques, politiques, des rapports environnementaux, enfin ça... Il y a eu des conséquences qui dépassent très largement la simple exploitation.
Tout à fait. L'exploitation est une des dimensions de la colonisation et de cette habité coloniale. Mais c'est vraiment au niveau de la conception même de ce qu'est être sur Terre qu'il faut comprendre ce qu'est la colonisation. Et si on la comprend comme ça, alors on va pouvoir se rendre compte que la décolonisation statutaire, le fait soit d'avoir accès à l'indépendance, soit d'avoir accès à une forme de départementalisation comme l'ont eu certaines îles, comme la Martinique, mais aussi la Guadeloupe, etc., que la seule décolonisation statutaire n'est pas suffisante. On peut très bien reconquérir une souveraineté sur son territoire et pourtant reproduire les mêmes manières d'habiter la terre qui ont été imposées par la colonisation, c'est-à-dire de poursuivre cette habité coloniale. C'est ce qu'on peut remarquer dans plusieurs îles des Outre-mer, à La Réunion, à Martinique, en Guadeloupe, où finalement, oui, 1848, on a eu la deuxième abolition de l'esclavage, oui, 1946, nous sommes devenus des départements d'Outre-mer avec une égalité des droits sociaux. Pourtant, notre manière d'habiter ces terres, notre manière de se penser sur ces terres et de les occuper par une forme de puzzle de plantation n'a pas changé fondamentalement. Et en parallèle, l'affaire du chlordécone qui fait beaucoup de bruit en ce moment est précisément ce symptôme-là. C'est-à-dire que pour pouvoir alimenter un marché hexagonal lointain, pour pouvoir permettre à certains actionnaires de faire des bénéfices, on a hypothéqué le futur des générations futures. On a pollué des terres pour plusieurs siècles et que c'était ça le but. C'est poursuivre la plantation, poursuivre cette économie de plantation.
Dans le livre, vous montrez d'ailleurs, il y a un passage sur Toussaint Louverture, et vous montrez que l'économie de la plantation, l'économie plantationnaire, était tout à fait compatible avec l'abolition de l'esclavage. Voire certains planteurs y ont même trouvé, d'une certaine manière, leur intérêt en fait, à l'abolition de l'esclavage à ce moment-là. Donc en fait, vous parlez de la révolution de Haïti. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon de concevoir les choses qui amène un peu plus loin le propos sur l'indépendance et la révolution, et qui permet de voir et de concevoir que les indépendances et les révolutions, quelque part, il n'y en a pas beaucoup qui ont été achevées, voire en fait, il n'y en a quasiment aucune, puisque nous sommes toujours dans une ère d'économie de plantation à l'échelle du monde et que ce que l'on vit, c'est ce que vous appelez le plantationocène.
Oui, alors, tout à fait, je pense que la révolution haïtienne est l'un des faits politiques les plus importants de l'histoire de la modernité. Ça, il faut que ça soit clair. Première nation, première république noire, face à toutes les nations européennes en 1804, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je pense, cependant, qu'il faut réussir à penser cette révolution à venir, parce que, bon, à penser ce qu'il reste à faire, à penser ce qui nous est hérité quand même de la colonisation. Et que oui, au lendemain de l'insurrection anti-esclavagiste, l'ouverture des salines, que la révolution haïtienne n'a pas nécessairement changé dans ses principes les manières d'habiter la terre. Que la plantation restait le modèle connu. Mais cela n'est pas uniquement le fait des protagonistes de la révolution haïtienne. C'est-à-dire que Toussaint Louverture pensait, et des salines par la suite, que pour pouvoir solidifier ou conserver la liberté des siens, il fallait pouvoir continuer à fournir en sucre et en café les autres nations, que c'était là la seule voie possible pour pouvoir défendre la liberté. Donc c'est un système qui est extrêmement complexe et qu'on ne peut pas tout seul dans son coin tout renverser, que malgré tout on est dans des systèmes d'interdépendance, et c'est aussi ça les autres formes de domination. Que quand la France exige qu'Haïti rembourse son indépendance, que comment Haïti va rembourser son indépendance ou va payer des indemnités aux planteurs esclavagistes, ça va être en développant encore plus cette économie de plantation, qui est une économie destructrice, qui est misogyne, qui ne nourrit pas nécessairement le peuple. Donc on voit comment tout s'enchaîne. Et ce qui s'est passé dans les anciennes colonies françaises comme la Martinique et la Guadeloupe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on s'est dit, vu que le plus important, c'est la poursuite de la plantation, c'est pas grave si on abolit l'esclavage, à condition qu'on mette en place des mesures qui permettent aux anciens esclaves de rester sur la plantation et de continuer à l'alimenter, ou alors d'aller chercher à travers l'engagisme d'autres personnes en Afrique, en Inde et en Chine.
Donc, fixer un salariat, développer En fait, finalement, abolir le statut d'esclave, mais pas la condition en réalité.
Exactement. Et ce que j'appelle le plantationocène, avec d'autres, je ne suis pas le premier à employer ce terme, c'est en réponse à un terme qui est, lui, environnementaliste, proposé entre autres par Paul Crutzen. Paul Crutzen est un prix Nobel de chimie, un géologue aussi, qui a voulu montrer que nous sommes arrivés à un tel niveau de destruction de la Terre que cette époque géologique, on peut l'appeler anthropocène, du mot anthropos, homme, c'est-à-dire l'ère géologique où ce qu'il appelle, lui, l'homme, devient une force géologique majeure qui perturbe les équilibres écosystémiques. Très bien, entreprise très louable. Le problème étant que ce mot, l'homme, est et demeure une posture coloniale. Parce qu'en fait, on occulte non seulement les différentes hiérarchies et dominations sociales au sein même des hommes, des humains, parce qu'en fait, l'homme, comme dirait Hannah Arendt, n'agit pas. L'homme est l'invention de Dieu, mais ce sont les hommes ou les humains qui agissent. Il y a toujours une pluralité d'acteurs en lien, et on les occulte. En l'occurrence, on occulte les différents rapports entre maître et esclave, entre hommes et femmes, et aussi entre humains et non-humains. Et pour pouvoir attirer l'attention sur cette diversité et cette complexité d'acteurs, le terme de plantation est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est plantation donne plantationocène. En retour, là où je propose aussi un autre terme pour qualifier cette ère géologique, c'est le terme de négrocène, du mot nègre. Pourquoi ? Parce que la plantation a toujours été associée avec l'afflux ou le recours à ces formes de main-d'œuvre, ces êtres humains, mais aussi non-humains, dont seule la valeur énergétique compte. Seule la capacité de labeur est recherchée, mais la voix, la dignité, la place au monde, la vie sociale est mise de côté. C'est ça, le nègre. Et du coup, comprendre que cette ère géologique dans laquelle nous sommes, c'est aussi l'ère où on a produit, où on a désigné tout un ensemble de personnes comme étant des personnes qui n'ont pas de place au monde, dont leur fonction est seulement d'alimenter les désirs de certains maîtres de plantation.
Des biens meubles.
Des biens meubles.
Comme ils étaient qualifiés dans le Code noir.
Exactement.
Et aujourd'hui, en fait, on retrouve ce qui procède de cette lecture du monde ou représentation des choses dans les indicateurs de mesure de la richesse d'une nation, d'un pays, à travers le calcul notamment des choses comme le PIB. Et en fait, on est vraiment dans cette généalogie-là, toujours dans l'appréhension de l'être humain seulement à travers finalement sa capacité de production, de valeur marchande ou sa capacité à valoriser du capital.
Oui, tout à fait. Il y a un autre terme aussi qui en vogue, qui est celui de capitalocène, qui permet de qualifier cette ère géologique. Et ce qui est intéressant, et ce qui est même parfois comique, mais frappant, c'est le fait que la modernité a connu 5 siècles de colonisation, d'entreprises coloniales, de génocide, de crimes contre l'humanité, de guerre. Et ce sont ces actions qui ont donné lieu à la crise écologique, à la dégradation environnementale, à la perturbation des écosystèmes. Mais ce qui est frappant, c'est que pour répondre à cette crise, les environnementalistes, en tout cas une pensée environnementaliste s'est développée, affirmant la nécessité que je partage de prendre en compte les écosystèmes, les non-humains, les animaux, les cours d'eau. Ils ont mis en place cependant une manière de penser ces changements qui fait fi de toute cette histoire.
Des conditions de la production de ces destructions.
Toute cette histoire coloniale, toute cette histoire esclavagiste. Et cela se remarque par exemple aux différentes figures, aux différents penseurs, souvent des hommes, mais aujourd'hui on sait qu'il y a bien plus qu'il y a des penseurs femmes extrêmement intéressantes, comme Vandana Shiva, ou ici Emiliash, ou enfin voilà, un ensemble de personnes. Ils ont pris comme figure phare des hommes dans des sociétés postcoloniales et post-esclavagistes, mais qui n'auraient eu qu'un souci pour une nature vierge, pour aller vite. Que ce qui pose problème serait seulement la conservation d'espaces dits naturels, mais que les conditions politiques et sociales qui ont permis la destruction ou la menace de ces espaces naturels n'importent peu. Parmi ces hommes, on va trouver des figures comme John Muir, un Américain qui est célèbre aujourd'hui, en plus aux États-Unis, pour avoir été l'un des premiers instigateurs de ces parcs naturels, comme le parc de Yosemite sur la côte ouest en Californie. Mais des hommes aussi comme Pierre Poivre, ce Français au XIXe siècle qui a mis en place les premières politiques de conservation de forêts à l'île Maurice, on appelait l'île de France. La liste est longue, on peut arriver à Henri David Thoreau, on peut arriver à Aldo Léopold, on peut arriver à Arne Naess, voilà, un ensemble des penseurs. Et quand on va dans les textes, quand on lit par exemple ce qu'écrit John Muir, à titre personnel, je trouve ça extrêmement violent, extrêmement choquant, ce qu'il écrit sur les Noirs, ce qu'il écrit sur les Indiens. Et en fait, on voit qu'il invente une conception de cette nature vierge qui ne fait pas seulement fi des autres, mais qui se construit contre les autres. À un moment donné, dans un de ses livres, il parle de cet espace, alors magnifique, hein, j'ai pu m'y rendre d'ailleurs, de cet espace de Yosemite, où il dit, voilà, nous avons une... Alors le terme anglais, c'est wilderness. Nous avons une wilderness qui est belle, magnifique, paradisiaque, qui est propre. Ce sont ces termes. Par contre, il y a des Indiens qui sont des sauvages à moitié heureux et surtout assez sales. Texto. John Muir est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, se rend à Cuba, au XIXe siècle, il me semble que c'était 1868. En tout cas, il se rend à Cuba au moment où Cuba est encore un pays esclavagiste. C'est-à-dire où encore il y a des êtres humains qui sont en esclavage. Vous savez que Cuba a aboli l'esclavage en 1888, hein, enfin en 86, l'un des derniers pays à abolir l'esclavage avec aussi le Brésil. Et pourtant, là, il passe un mois à La Havane à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire à herboriser, à aller voir les plantes, à aller voir les animaux, à aller voir les coquillages. Et il s'y plaît. Et je pense que, voilà, il y a aussi un monde, entre guillemets, naturel qui est important de reconnaître. Par contre, ce qui est frappant, c'est que l'attention qu'il porte au noir est non seulement inexistante, mais quand elle existe, elle est extrêmement dégradante. Il dit avoir rencontré à Cuba les noirs les plus laids de toute l'histoire qu'il a rencontrés.
Alors qu'ils s'émerveillent devant les coquillages.
Voilà, les noirs les plus laids. Ouais. Enfin, ce sont les termes. Donc c'est choquant, c'est violent, ça a été mis de côté. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier finalement cette construction raciale et coloniale de cet espace naturel de ces... Enfin voilà, on peut pas dissocier la construction d'un espace naturel vierge d'homme de ces présupposés coloniaux et esclavagistes.
Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Mais nous reprenons une émission d'Afrotopique intitulée Malcolm Ferdinand, penser une écologie décoloniale, une écologie du monde.
En fait, une écologie environnementaliste reproduit la matrice de pensée de la colonialité. Et la colonialité, à ce moment-là, on peut la qualifier non seulement comme étant ce que certains appellent la conquista ininterrompue, mais aussi la colonialité comme étant l'incapacité de saisir ensemble, de penser le monde dans un même mouvement, enfin de penser tout ce qui nous entoure, que ce soit les humains, les non-humains, et d'accorder le même niveau d'exigence, en tout cas d'attention, et d'apporter de porter la même attention à l'autre, qu'il soit humain ou non-humain.
Exactement. Et là, on revient sur ce que je disais au début, c'est-à-dire on revient sur la double fracture. C'est-à-dire que John Muir, effectivement, il a fait en sorte que certains espaces posés soient protégés, il faut le reconnaître, mais qui a été littéralement incapable de reconnaître finalement une même considération à des êtres pourtant, des êtres humains comme lui.
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans cette conception de l'écologie environnementaliste. elle s'accommode tout à fait de l'exclusion de certaines populations d'espace, et c'est une conception quand même très naturaliste de la nature qui ne permet pas aux êtres humains d'habiter, enfin qui exclut en fait, qui c'est une conception de la nature pensée comme vous le disiez, virginale.
Oui, tout à fait. Et je pense que, enfin, cette conception, je ne l'appelle même pas écologie. Parce que c'est une contradiction dans les termes. L'écologie s'intéresse à toutes les parties de l'écosystème et doit s'intéresser aussi aux humains. Pour moi, c'est une forme d'environnementalisme. L'écologie qui correspond à cet environnementalisme-là, c'est ce que j'appelle une écologie coloniale.
Fondamentaliste.
Voilà, et ça va pouvoir entraîner un ensemble de dérives. Des parcs qui sont construits, qui sont institués en Afrique contre les peuples autochtones.
Des expulsions, en fait.
Des expulsions, des évictions. Ça va donner lieu aussi à un ensemble de théories farfelues sur la surpopulation des personnes racisées dans le monde. Le problème serait qu'il y ait trop de ventre en Afrique, que les femmes font trop d'enfants. Le problème, comme disait Sarkozy, c'est que la fertilité est trop importante au Nigeria.
Oui, mais ça c'est extrêmement grave déjà, et en plus de ça c'est extrêmement faux, parce que si aujourd'hui on a une... Si on pense les problèmes auxquels nous sommes confrontés et la destruction du monde elle est le fait de populations qui ne font pas d'enfants.
C'est-à-dire que dans cette réflexion, effectivement, on ne pense pas nécessairement à ce qu'on appelle couramment l'empreinte écologique, et que on sait très bien qu'un Américain moyen... a besoin d'un espace, pas nécessairement a besoin, mais occupe un espace de la Terre beaucoup plus important que quelqu'un du Tchad, que quelqu'un du Darfour, et que Martiniquais, peut-être dans une moindre dimension. Et dans mon livre, je montre un peu que chacune de ces écologies, enfin en tout cas cette écologie coloniale, produit aussi un ensemble de figures. Donc les John Muir, les Toro, les Aldo Leopold, ce sont des figures du promeneur solitaire, avec différentes actions. Et une des figures que je montre dans cette écologie coloniale, c'est la figure du sacrificateur. C'est-à-dire que c'est cette personne qui va se parer d'une vérité scientifique pour attester du surplus du monde, en disant « Moi, j'ai la science, j'ai fait le calcul, ça c'est le propre de Malthus, j'ai fait le calcul, il y a trop de population, donc il faudrait réduire la population de ces personnes-là. » C'est la même chose avec le mouvement, à un moment donné, dans les années 70-80, de l'écologie profonde, où ils font une plateforme en disant, au point 4 ou 5, il faudrait une diminution drastique de la population.
On ne dit pas de quelle population, ou en tout cas, en fait, c'est...
Et ce sont surtout des hommes blancs qui font cet argument.
Oui. Donc, en fait, c'est très important de comprendre que le discours écologiste, ou soi-disant écologiste, il est traversé par des cultures ou des mouvements et des courants de pensée très différents, et qu'il y a beaucoup d'idéologies. Enfin, il peut y avoir de l'idéologie à l'intérieur de certains discours, et que, en fait, ce qui est présenté comme étant des faits, justement, ce que permet l'abstraction, que permet les chiffres et le discours expert et soi-disant scientifique, c'est de présenter comme neutre quelque chose qui en fait est complètement politique, parce que Malthus en son temps prônait la diminution des naissances, c'était un discours politique, c'est pas un discours scientifique, c'est un discours politique, de la même manière que lorsqu'en 1972 le rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, a été publié, il proposait d'abord, principalement, plutôt au regard de la consommation des ressources sur la planète, proposer de plutôt ralentir l'économie des sociétés industrialisées, de ralentir sur, en fait, de poser en quelque sorte des limites à la croissance, à une forme de croissance. Et il y avait aussi un point sur la démographie, mais ce qui était beaucoup mis en avant, c'était quand même l'idée que les sociétés industrialisées consomment trop globalement et la planète ne peut pas suivre. Et donc c'était aussi déjà un discours politique, mais qui n'était pas orienté de la même manière.
C'est-à-dire que je pense qu'on peut concevoir, on peut réfléchir, enfin je ne suis pas pour rejeter toute la démographie, je pense qu'on peut réfléchir des fois à voir dans quelle direction on oriente le flux démographique, mais je pense que parler de ces questions sans mentionner ces inégalités de consommation des ressources de la Terre, là, on est dans une posture coloniale. Et là, on est dans une posture totalement idéologique, totalement politique, où, au fond, on construit un mur autour de nous dont le centre est soit aux États-Unis, soit dans une Europe de l'Ouest, face à un « eux » qui comme par hasard, se retrouve ce « e » issu de l'ancienne colonisation, les Indiens, les Africains. Et aujourd'hui, les Chinois sont ceux qui menaceraient, pareil, cette modernité occidentale.
Peut-être pour revenir sur la manière dont vous avez construit le livre et donc les différentes propositions, les différents navires et la manière dont vous nous proposez de cheminer pour construire cette écologie décoloniale.
C'est ça. Donc là, jusqu'à présent, on a parlé de finalement cette manière coloniale de penser l'écologie, on va dire en écologie coloniale. Ce que je propose, c'est le titre aussi du livre, je propose, et surtout je montre, parce que j'écris ce livre, mais je ne suis certainement pas le premier à avoir pensé ces choses ainsi. Je ne fais que pointer et montrer l'existence d'une autre genèse du souci écologique, d'une autre manière de penser cette crise, qui remonte au moins avant 1492, où là il y a des populations autochtones, notamment des Amérindiens, des Kalinago, des Taino, dans les Caraïbes, qui ont d'autres pratiques, d'autres manières d'habiter la Terre, d'autres manières de se penser au monde. Mais même aujourd'hui, je montre qu'il y a une manière de concevoir la crise écologique qui est intimement, inséparablement associée à cette quête d'émancipation, à cette demande d'égalité et à cette recherche de justice. C'est ce que j'appelle une écologie décoloniale. L'écologie qui à la fois se soucie de la préservation des écosystèmes, à la fois se soucie de la dignité, particulièrement la dignité des racisés et des femmes. Quand on parle d'écologie, on parle de pensée de la Terre et du monde. Et ces pensées sont toujours bercées au sein d'imaginaires. L'imaginaire qui a animé et qui berce encore la plupart des discours écologistes est ce que j'appelle l'imaginaire de l'Arche de Noé. C'est-à-dire qu'on a l'idée qu'il y a un déluge qui va arriver. Le fait que le réchauffement climatique entraîne la fonte des glaces qui va en retour faire monter le niveau des eaux rend bien compte de cette image d'un déluge qui arrive, de cette montée des eaux comme c'était parlé, qui a commencé. Et face à cette montée des eaux, il faudrait qu'on construise une arche. Parfois, donc cet imaginaire est présent implicitement ou explicitement. C'est un imaginaire qui est très explicitement présent dans la pensée de Michel Serres, par exemple. Or, l'arche, ce n'est pas qu'un navire imaginaire, c'est aussi un navire qui a une fonction, en tout cas qui a une portée politique, où l'action à mettre en place est celle qui va mener quelques humains, en tout cas les élus, ceux qui sont choisis, à cette arche qui est censée nous sauver. Et en plus, dans cette arche, dans les récits de l'arche de Noé, on sait très peu de choses sur ce qui se passe à l'intérieur du navire. Comment finalement ces paires d'animaux choisis et la famille de Noé, comment ils cohabitent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment ils vivent. Tout ça est mis de côté, est effacé, est occulté.
On ne sait pas s'il y a une cale ou pas.
On ne sait pas. Et face à cette arche, l'écologie décoloniale que je décris, que je pointe, elle montre aussi un autre imaginaire qui l'anime. Cet imaginaire de l'esclavage, de la colonisation. En particulier, cet imaginaire a aussi un navire mythique, un navire qui montre la naissance de ces sociétés, au moins ces sociétés caribéennes, c'est le navire négrier. Et là, le navire négrier, bien sûr, les historiens nous diront que voilà, le navire négrier, c'est de 1560 à 1800 et quelques, qui est une réalité historique, matérielle, bien sûr, mais le navire négrier a aussi une réalité imaginaire. C'est pour ça que dans plein de romanciers, de poètes, de sculpteurs, vous allez voir cette figure revenir encore, encore et encore. Or, l'avantage, si je peux dire, du navire négrier comme imaginaire, c'est qu'il montre la réalité sociale et politique, enfin, l'immédiateté de cette expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce n'est pas parce qu'il y a une tempête écologique à l'horizon, que l'expérience de domination à l'intérieur même de la cale est évacuée. Non, il y a des personnes qui sont dans la cale du monde. Et face à la tempête, elles vont pas se dire « Bon ben, c'est pas grave, je vais rester dans la cale en attendant que la tempête passe. » Non. Faire face à la tempête, c'est aussi sortir de la cale du navire négrier. Et l'écologie décoloniale, au niveau imaginaire, c'est une sortie de la cale.
Et puis, la tempête, c'est déjà la cale, en fait. Enfin, l'enfer, c'est déjà la cale pour ceux qui sont dans la cale. La tempête, ils la voient pas à l'extérieur. Ils sont déjà en train de vivre leur propre tempête.
Et ça, c'est aussi un point que j'explique dans un chapitre du livre qui s'appelle « Cyclone colonial ». C'est-à-dire que je montre que finalement, dans l'imaginaire de l'Arche de Noé, on a l'impression que le déluge serait quelque chose d'extérieur, qui serait venue, pour le coup, qui serait créée par Dieu dans l'Ancien Testament, mais qui serait extérieure, qui serait comme une malédiction. Or, ce que je montre en prenant l'exemple de certains navires négriers historiques, pour le coup, c'est que ce sont les conditions de domination sociale et politique à l'intérieur du navire qui créent la tempête. Et que faire face à la tempête implique de se confronter à ces différents conflits au sein même du navire. Il y a le cas historique en couverture du livre qui est peint par William Turner, donc c'est un tableau qui date de 1840, mais qui fait référence à l'histoire du navire négrier Zong à la fin du XVIIIe siècle. Le Zong est un navire négrier qui part des côtes africaines en direction de la Jamaïque. Cependant, il fait une erreur de navigation et il se retrouve à 10 jours de navigation de la Jamaïque alors qu'il ne resterait apparemment que 5 jours en termes de capacité d'eau. Là, l'équipage se réunit. Ils disent « Mais que va-t-on faire ?» Là, il y en a un qui a une idée. « Ben écoutez, on va tout simplement jeter des esclaves à l'eau. » Ça peut paraître bizarre, mais en fait, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait une provision dans les assurances, parce que les négriers prenaient des assurances en cas d'intempérie, qui disait que s'il y avait une intempérie très grave, ce qu'ils appellent les « perils of sea », comme un cyclone, ce qui arrivait aussi, et que dans cette intempérie, la cargaison qui en fait était des êtres humains, était perdue, alors ils pouvaient être remboursés. Donc ils se sont dit, si on jette des êtres humains à l'eau, et qu'on dit après qu'il y avait un problème, qu'il y avait un cyclone, alors on pourra se faire rembourser, et on pourra quand même profiter de ces êtres humains. Donc là, c'est vraiment la folie totale, la folie complète et extrême du monde colonial, où la jetée à la mort d'êtres humains devenait profitable. Et donc là, on voit bien comment il y a une invention, alors là, pour le coup, dans ce cas historique littéral, d'un cyclone, qui devient un prétexte pour ne pas vivre ensemble.
Et c'est un cas qui est... C'est une métaphore à la fois de nos temps présents, et c'est aussi très important ce que ce moment permet de comprendre aussi, c'est que en fait la pénurie d'eau est liée à une erreur de navigation. C'est important de le souligner. On fait fausse route, on se dirige vers un mauvais cap, on a développé un modèle de société insoutenable, c'est très clair. Donc erreur de navigation, et là où il y a du politique, et là où c'est important justement de penser un navire sans cale, c'est que les luttes de pouvoir, les inégalités de situation et les conflits politiques qui sont internes au navire produisent la catastrophe en eux-mêmes, parce que dans un autre contexte, avec que des personnes sur un pont libre, quand bien même l'erreur de navigation aurait été commise par une personne de l'équipage, la solution envisagée aurait été certainement autre. Et on ne peut pas... Je trouve que c'est un épisode important parce qu'il nous permet de penser en fait toutes les dérives dans lesquelles on est en train de s'engager ou dans lesquelles certains tentent de nous engager, et la difficulté qu'on a à penser en dehors et à penser justement la nécessité absolue d'être sur un navire commun composé d'hommes libres, quoi.
Tout à fait. La catastrophe est toujours construite. Même si l'aléa peut être naturel dans certains cas, comme les tremblements de terre par exemple, la catastrophe est construite. Et là, en ce qui concerne les cyclones, on sait que le réchauffement climatique augmente l'intensité de certains cyclones, et on sait que c'est une partie de la population qui contribue majoritairement au réchauffement climatique, mais que, par exemple, des pays comme ceux de la Caraïbe sont ceux qui vont en souffrir le plus. Ce rapport entre un cyclone qui finalement va venir renforcer la position de dominant des dominants et exacerber la domination des dominés, c'est quelque chose que Aimé Césaire avait déjà remarqué. Alors, dans cette entreprise de l'écologie décoloniale, de donner un autre récit, il m'a fallu aussi faire appel à d'autres références, à d'autres auteurs. Ce qui est d'ailleurs aussi extrêmement frappant dans la pensée environnementale, c'est que des auteurs qui sont pourtant phares comme étant dans la critique de modernité, des auteurs anticoloniaux, postcoloniaux, décoloniaux, sont quasiment absents de cette pensée. Ce livre est aussi une manière d'essayer de les non pas de les réintégrer, de montrer qu'il y a une autre genèse du souci écologique qui se trouve déjà dans leurs écrits, comme Aimé Césaire, comme Édouard Glissant, comme Frantz Fanon, comme Marie Scondé, comme Alice Walker, comme Maya Angelou, enfin voilà, tout un ensemble de romanciers, de poètes aussi, comme Gil Scott Heron et de chanteurs qui ont déjà compris cette dimension politique de la crise écologique ou cette dimension politique de la catastrophe. Donc une phrase et une citation qui pour moi exemplifie ce rapport de la catastrophe avec cette constitution coloniale du monde est disponible dans la pièce de Aimé Césaire, Une tempête. Donc c'est une pièce qu'il réécrit à la suite de Shakespeare. Il dit ceci, une réplique de Prospero. Nous manigançâmes la tempête à laquelle tu viens d'assister. Tempête qui préserve mes biens d'outre-mer et met en même temps ses sacripants en ma possession. Donc il montre que la tempête... Donc dans la pièce Une tempête, Prospero est sur une île isolée, il y a une tempête qui ramène finalement son frère sur l'île, une tempête qui va servir ses intérêts. Et dans sa réécriture, Césaire montre qu'en fait cette tempête devient littéralement...
Une bonne affaire,
littéralement profitable, littéralement quelque chose qui va renforcer l'habité coloniale. Et quand on voit le cas de Katrina, quand on voit comment, encore aujourd'hui, certains cyclones exacerbent ces dominations, ce que Naomi Klein a qualifié de choc du désastre, on remarque que Césaire, en fait, cette relation est extrêmement forte. Et que du coup, plutôt que de rester dans une approche totalement naïve de « Ah là là, il y a un malheur qui est arrivé », il faut aussi chercher cette égalité au sein même de la catastrophe, ces demandes de dignité au sein même de la catastrophe. Ce qui m'a frappé, par exemple, dans le dernier cyclone qui est passé, je crois que c'était Dorian aux Bahamas. Ce cyclone passe sur les Bahamas, catégorie 5, extrêmement violent. Et là, on voit, bien sûr, Donald Trump, il refuse d'accepter un ensemble de réfugiés aux États-Unis. Mais en particulier, il y avait un camp d'Haïtiens qui vivaient dans des maisons, mais construites avec des planches de bois et des feuilles de tôle qui a été totalement ravagée. Et il sous-entend qu'il ne faut surtout pas que ces personnes-là arrivent aux États-Unis. Mmh. Bon, enfin, voilà, on est un peu dans cette...
Ouais. Dans votre livre, vous parlez également beaucoup d'autres références, pas seulement d'autres auteurs, mais aussi également d'autres références en termes... culturel, et vous citez, vous parlez beaucoup du marronnage. Alors du marronnage à plusieurs moments, vous parlez du petit marronnage, du grand marronnage, vous parlez également du marronnage civil. Est-ce que vous pouvez développer sur justement en fait aujourd'hui ce que sont les différentes pistes pour sortir de la cale du navire ou construire un autre navire et celles qui ont été proposées par...
Alors, le marronnage et la figure des marrons, ces figures-là sont extrêmement importantes pour toutes les Amériques, mais aussi dans tous les espaces coloniaux, comme la Réunion et le Cap-Vert au large de l'Afrique. Le marron est la figure, cette personne, homme ou femme, qui s'enfuit des plantations, qui s'enfuit du navire négrier, ou qui s'enfuit des baraquements sur les côtes africaines. Bien sûr, les historiens ont montré, ils ont mesuré... les différentes formes de marronnage, les différentes durées, le petit marronnage étant une courte durée, les grands marronnages sont...
Donc l'esclave qui s'enfuit de la plantation.
L'esclave qui s'enfuit de la plantation.
Quelques semaines
qui revient. Le grand marronnage représente ces communautés qui ont perduré pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles, comme c'est le cas au Suriname avec les Saramaca, comme ça peut être le cas dans certains endroits de Jamaïque ou alors en Colombie, comme ça a été le cas en Virginie.
Donc ce sont ceux qui incarnent le refus de la plantation.
Le refus de la plantation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce refus, et encore aujourd'hui, la figure de Marron reste prise principalement à travers son refus politique, son désir de révolte, qui est là, qui est très fort. Mais ce qui est caché, à la fois au sein de l'histoire coloniale et à la fois au sein de l'histoire environnementale, c'est finalement le geste profondément écologique qu'ont mis en place les Marrons. Ils n'ont pas préservé une nature vierge, mais ils ont préservé finalement ces communautés humaines, non humaines, de l'habité coloniale, de la plantation, de cette exploitation sans fin, compulsive, qui a vocation totalement à détruire et à servir. Et ce geste écologiste qui a été mis de côté, c'est vraiment dommage qu'on l'ait mis de côté parce qu'aujourd'hui, il fait partie de cette panoplie d'outils que l'on a pour lutter contre les destructions environnementales aujourd'hui.
Oui, c'est inspirant et vous parlez à cet égard non pas d'un art de la fugue, comme souvent le marronnage est qualifié de fuite, mais plutôt comme un art de vivre, et vous montrer comment en fait les marrons ont réussi à produire d'autres rapports que ceux qui avaient été configurés par la plantation. Vous citez Césaire qui lui dit que en faisant cela, en marronnant, ils ont réussi à renverser l'entreprise impériale qui fit du navire négrier l'unique façon dont une pluralité pouvait être mise en présence. Et c'est assez fort.
Oui, alors je parle à partir de Serre, mais je vais juste clarifier ces deux points. Le marronnage a ses vertus, mais a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'effectivement, les marrons, majoritairement, sont partis de la plantation, mais il reste quand même cette rupture, cette fracture avec ceux qui sont restés sur la plantation. Et que parfois, il est difficile, finalement, de faire cette alliance entre ceux qui sont dans la plantation, ceux qui sont dans les camps marrons. Alors, bien sûr, il y avait des communications. Enfin, voilà, il y a des historiens et des anthropologues comme Richard Price et Sally Price qui travaillent sur cette question. Mais Toni Morrison, paix à son âme, disait ceci. Il n'y a véritablement qu'une seule intrigue dans l'esclavage. On est dedans, on veut en sortir. Et la figure qui incarne cette sortie de la case, sortie de l'esclavage, c'est le marron. C'est pour ça qu'elle est importante. Par contre, ce que je décris à partir de Césaire, c'est encore une autre figure, finalement. C'est la figure qui correspond à ce dernier navire que je travaille dans mon livre, ce navire-monde, avec un tiret entre les deux, navire-monde. C'est cette figure du compagnon de bord. Le marron, quand il s'en va pour sa vie, il s'en va pour les siens. Parfois, il revient comme Washington aux États-Unis pour rechercher sa femme et ses enfants. Parfois, il ne peut pas revenir. Parfois, aussi, dans les camps marrons, il y a eu des rapports très difficiles entre hommes et femmes. C'est ce que Marie Scondé montre en essayant de trouver une forme de marronnage qui est à la fois une opposition à l'esclavage, à la fois une exigence d'égalité homme-femme. Mais ce qui se passe, c'est quand même, il y a malgré nous le fait que dans le marronnage, une forme d'abandon de ceux qui sont dans la plantation. Et c'est là la limite du marronnage. Et aujourd'hui, des lieux comme les ZAD, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, reproduit cette forme de marronnage. Mmh. Alors, la différence, c'est quand même qu'ils ne font pas face aux mêmes formes de racisme systémique que des Noirs aujourd'hui traversent. Et que, comme dit Amandine Gay, s'il y avait 200 Noirs qui avaient occupé un terrain à fumer parfois un peu de certaines choses, les choses se seraient passées différemment, et là, on peut être d'accord. Mais quand même, ce geste, cette praxis marronne est présente et est très forte. Ce que Césaire montre, ce n'est pas exactement un marronnage, c'est quelque chose d'autre. Ce que j'appelle la figure du compagnon de bord. Qu'est-ce que c'est que la figure du compagnon de bord? Le navire négrier nous a laissé penser que soit on est dans la cale, soit on a une fuite marine et on s'en va. Mais on ne peut pas être sur le navire et être libre. Et c'est là la radicalité du geste de Césaire, mais de l'ouverture et d'autres encore. De Rosa Parks, de Malcolm X à un moment donné. Enfin voilà, ils ont dit, écoutez, partir, oui, parce que la rencontre est trop violente, mais le chemin que montre Césaire, c'est une manière de dire il est possible de vivre ensemble sur ce navire, même avec les descendants de ceux qui ont opprimé mes ancêtres. Il est possible que ce navire soit autre chose que navire négrier. Et ce qui fait que ce navire sera autre chose que navire négrier, ce n'est pas seulement le nom qu'on met dessus, ce sont les relations qu'on va pouvoir instaurer ensemble. Relation d'égalité, relation de dignité, relation de paix. Et la radicalité du geste de Césaire, radicalité aussi qui était le geste de son ouverture, quand il proposait une forme de fédéralisme avec la France avant l'indépendance, c'est de dire, écoutez, nous allons renverser, nous allons faire de ce navire, des cendres de ce navire, le navire de monde. Le navire monde. Et cette figure, la figure de compagnon de bord, tente justement d'ouvrir ces espaces, de rencontre. De rencontre avec l'autre humain, mais aussi avec l'autre non-humain.
Et comment, très concrètement, du coup, aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on parvient à produire les conditions de cette rencontre? J'imagine que c'est un peu ce à quoi vous tentez de répondre aussi.
Oui, parce qu'il y a, une tendance... on va dire assez simpliste, à notamment une lecture totalement erronée et partielle de l'œuvre de Glissant sur la créolisation, et même de Chamoiseau, enfin voilà, ou sur l'hybridité avec Oumbaba, qui va dire, bon, voilà, nous sommes tous créoles, nous sommes tous métis, donc c'est bon, ces questions d'injustice et d'inégalité, on les met de côté, de toute façon, voilà. Non. Pour que cette rencontre puisse se dérouler dans des conditions dignes, il est nécessaire d'instaurer ce que j'appelle un pont de la justice. Alors, le pont, j'aime bien ce terme parce qu'il veut dire au moins deux choses. D'abord, le pont qui permet de passer d'une rive à une autre, mais aussi cet espace de rencontre qu'on voit dans des films, des fois, comme Star Trek, ou alors... C'est-à-dire, oui, le pont, Captain on the Bridge. Et sur le pont, alors Star Trek, la science-fiction a sa place dans ses réflexions, est intéressante parce que, sur le pont, il se passe des rencontres entre des êtres qui ont des qualités totalement différentes, qui ont des histoires, parfois sont même des espèces totalement différentes. Et ce pont qui permet la rencontre, pour moi, doit être un pont de justice. Mais attention, ce n'est pas seulement une justice contemporaine. Ne me tue pas aujourd'hui, ou alors donne-moi une égalité de salaire, de place, etc. Bien sûr. C'est aussi une justice transgénérationnelle. Entre le passé, le présent, le futur. Parce que c'est aussi ça dont il est question dans le monde d'aujourd'hui, dans la crise écologique aujourd'hui. Les émissions de gaz à effet de serre que l'on émet aujourd'hui sont celles qui vont réchauffer la planète de nos enfants. La température que l'on connaît aujourd'hui est le résultat des émissions qui sont passées il y a quelques dizaines d'années. Ce que je demande, ce que je propose en tout cas, ce que j'exige aussi, c'est que cette justice transgénérationnelle qui est déjà en place, qui est déjà pensée dans ces questions, notamment avec les protocoles de Kyoto, avec les accords de Paris, la COP21, je demande à ce que cette justice transgénérationnelle soit sortie de l'impasse de la double fracture. Que si on peut penser à une justice transgénérationnelle en termes d'écologie, en termes d'environnement, alors il faut aussi qu'on la pense en termes politiques, sociales. Il faut aussi qu'on la pense dans le rapport à l'histoire de l'esclavage, dans le rapport à l'histoire de la colonisation. Et c'est pour ça que si, comme je propose, l'objet de l'écologie n'est pas seulement de préserver la nature, mais aussi d'instaurer un monde de dignité, cela implique qu'il faut aussi qu'on puisse reconnaître les dignités de ceux qui ont été mis en esclavage, de ceux qui ont été colonisés. Mmh. Et des actions comme les demandes de réparation qui émanent de tous les pays caribéens, des actions comme les propositions, les demandes de restitution d'objets d'art,
de
dette écologique, les actions comme la reconnaissance des droits des autochtones, des droits des demandes de justice des peuples polynésiens, des demandes de justice de la jeunesse autochtone de Guyane, sont aussi des actions qui doivent accompagner cette justice écologique transgénérationnelle. Et je pense que c'est la justice qui peut être garante d'une véritable rencontre qui, elle, à mon avis, elle seule peut donner lieu à un monde. Mmh. Un monde commun.
Vous retrouverez l'entrevue de Frotopic avec Malcolm Ferdinand, Penser une écologie décoloniale, une écologie du monde, sur le SoundCloud de Frotopic. Afrotopic, AFROTOPIQUES. Comme il est écrit dans le texte qui accompagne l'entrevue, l'ambition de l'écologie décoloniale, ce n'est pas seulement de changer le récit, de protéger l'environnement, ni seulement de reconnaître les luttes antiracistes ou anti-esclavagistes, mais bien plutôt d'instaurer un monde, de réparer la double fracture qui sépare les luttes décoloniales des luttes environnementales, afin de retrouver la force nécessaire pour briser la cale du monde. Cette écologie décoloniale propose de quitter la plantation et son air. Elle nous permet de voir ce qu'il reste à faire et à défaire. Elle nous rappelle également que l'écoutille qui sépare le pont de la cale se brise des deux côtés, du côté des libres et des captifs, que l'on a tous du travail, car la modernité nous a inculqué à tous des formes de l'habité coloniale. C'est un livre passionnant et important qui réussit à tenir ensemble sans mettre de côté l'exigence de justice. On vous invite vraiment à le lire parce qu'on n'en a pas eu le temps de parler de tout et que c'est un essai qui a véritablement le pouvoir de transformer nos imaginaires et que l'écologie, c'est aussi une question d'imaginaire. C'était une partie du texte qui accompagne l'entrevue avec Malcolm Ferdinand. Vous pouvez entendre l'entrevue au complet donc sur le SoundCloud de Frotopic. Nous vous ferons entendre la fin dans la prochaine émission de En profondeur, dans l'année 2021. Décolonisation et environnement, décolonisation et écologie, ce sont des thématiques et des luttes sur lesquelles nous avons grandement à nous pencher et à être actifs. Et ça, pour toutes les prochaines années, si nous voulons que le monde ait un sens, que le monde ait une vitalité, que le monde permette à toutes les espèces d'exister. On sait qu'on en a perdu beaucoup. Alors, c'est à la résistance qu'on vous appelle pour les années à venir, et c'est un peu notre mot de fin d'année, de la résistance, que vive la résistance, que la résistance s'inscrive dans une lutte décoloniale, antiraciste, féministe, antipatriarcale, une lutte qui comprend toutes les formes de pression pour les combattre, les faire face et les détruire, donc qui assume une position de résistance et de lutte à tout jamais contre le capitalisme, le colonialisme, le racisme.
Derek Seguin here. So we won't be hosting our families for the holidays this year, but let's look on the bright side. Got an aunt with some zany theories? Just mute her on the family video calls. A hippie cousin that bring new wave sludge to Réveillon? Not this year. To protect your family's health and safety, it's important you stay home and enjoy the peace and quiet.
Put your pants on, time to shovel the driveway!
Right away, hon. Safe holidays. Let's keep our spirits up.
A message from the gouvernement du Québec.
Still looking for a holiday gift or two for the special people in your life? CKUT has new merch, including hoodies and t-shirts, that showcase classic designs dug up from our art attic. Head to ckut.ca to discover our new merch store and find out more about sizing and shipping. Happy holidays from all of us at CKUT.